Amen, 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 amen. Il y a une semaine et demie, quoi, il y a Christine qui m'a demandé si je voulais bien intervenir sur une parabole que notre Seigneur nous a donnée pour que nous comprenions un peu mieux à quoi consiste le royaume de Dieu. J'ai dit oui, je n'ai pas bien compris pourquoi. Et finalement, en ce moment, bah, c'est vrai que j'entends beaucoup de travail et notamment de l'embauche que le Seigneur fait dans sa vigne. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Je me suis senti un peu interpellé quant à un choix personnel. Mais je ne vais pas trop anticiper. Si vous voulez bien prendre vos Bibles à Matthieu 20, ou alors je vais le lire de toute manière. Ça marche, hein ?
Alors, la parabole.
Je vais détacher parce que moi, comme si j'ai assez mon tempérament, je
boule beaucoup. La parabole du vigneron et ses ouvriers. Je me suis proposé au départ de prier par rapport à ce texte. Seigneur Jésus, merci pour les paroles que tu as prononcées, Seigneur, notamment Matthieu 20. Et ma prière, c'est qu'aujourd'hui, à travers le corps de Christ, parce qu'on va établir ça sur un échange, tu puisses nous donner toute la richesse et la signification profonde de ce que tu nous dis à travers ce verset. Et moi, je veux être comme celui qui, la première fois, redécouvre ce verset, et non pas comme quelqu'un qui a réfléchi, pas forcément. Parce que parfois, ce qui est spontané peut venir plus facilement de ton esprit que ce qui est trop réfléchi. Et Seigneur, vraiment, je demande que ton Saint-Esprit, maintenant, vienne nous visiter. Et que vraiment, il éclaire, même si c'est un petit peu, vaut mieux un petit peu intégré que trop recraché, mais vienne ensemencer notre cœur. Dans ce temps de moisson, hein, quand on regarde l'extérieur aujourd'hui, on voit que les moissons sont presque mûres. Hein. C'est un beau symbole. Seigneur, viens vraiment, vraiment nous parler maintenant. Viens nous parler individuellement. Si quelqu'un, justement, a une parole de connaissance par rapport à ce verset, eh bien, il va pouvoir l'exprimer. Merci, Seigneur. Merci, merci. Alors, dans tout premier lieu, j'ai cherché une définition du mot parabole. Est-ce que vous connaissez bien la définition du mot parabole? Parce que parfois, on emploie des mots comme ça, mais parfois, c'est bien de faire une petite recherche. Hein, on n'a pas la science infuse. Alors moi, j'ai fait une petite recherche, je vais vous la donner, ce sera plus simple. Hein. Parabole, comparaison développée dans un récit conventionnel dont les éléments sont empruntés à la vie quotidienne et comporte un enseignement religieux ou moral. Cette définition, vous la connaissiez peut-être? Non? C'est pas mal comme définition, ça. C'est-à-dire que le Seigneur, dans tout son enseignement, il a toujours pris des contexte conventionnel pour nous expliquer le royaume. D'accord ? Donc, il sait de quoi nous sommes faits. Hein, on est plus souvent des diesels que des turbos. Donc, il s'est dit, il faut vraiment que j'insiste de multiples facettes, de multiples manières. Et je vais répéter encore et encore et encore et encore. Et on connaît l'histoire des disciples, hein, où il a dû, après sa résurrection, encore expliquer et encore et encore et encore. Bon. Par rapport à Matthieu 20, je vais le lire rapidement. Ensuite, nous en discuterons ensemble. Voici en effet à quoi ressemble le royaume des cieux. Bon, c'est Jésus qui parle. Hein. Un propriétaire sort le matin de bonne heure afin d'embaucher des ouvriers pour travailler dans son vignoble. Il convient avec eux de leur donner comme salaire une pièce d'argent pour la journée. Puis il les envoie dans sa vigne. Vers 9h du matin, il sort de nouveau et aperçoit d'autres qui se tiennent sur la place du marché sans rien faire. Il leur dit, vous aussi, allez travailler dans ma vigne et je vous paierai correctement. Ils y vont. Il sort encore vers midi, puis vers 3h de l'après-midi, et chaque fois, il agit de la même manière. Enfin, étant ressorti à 5h du soir, il en trouve encore d'autres sur la place et leur dit « Pourquoi restez-vous ainsi toute la journée à ne rien faire ? C'est que personne ne nous a embauchés. Eh bien, vous aussi, allez travailler dans ma vigne. » Le soir, le propriétaire du vignoble dit à son administrateur « Fais venir les ouvriers, donne-leur la paie. Tu commenceras par ceux qui ont été engagés les derniers pour finir par les premiers. » Les ouvriers embauchés à 5h du soir se présentent d'abord et touchent chacun une pièce d'argent. Puis vient le tour des premiers engagés, ils s'attendent à recevoir davantage. Mais eux aussi touchent chacun une pièce d'argent. Lorsqu'ils la reçoivent, ils manifestent leur mécontentement à l'égard du propriétaire. Ça pourrait faire vraiment un beau sketch. Hein. Franchement, je vois déjà la scène, moi. Boum. Ceux-là sont arrivés les derniers, disent-ils, et ils n'ont travaillé qu'une heure. Et tu leur as donné autant qu'à nous qui avons travaillé dur toute la journée sous la forte chaleur. » Mais le maître répond à l'un d'eux, « Mon ami, dit-il, je ne te fais pas le moindre tort. Une pièce d'argent, n'est-ce pas le salaire sur lequel nous étions d'accord ? Prends donc ce qui te revient et rentre chez toi. Si cela me fait plaisir de donner au dernier arrivé autant qu'à toi, cela me regarde. Ne puis-je pas disposer de mon argent comme je le veux ? Ou bien, m'en veux-tu parce que je suis bon ? Voilà comment les derniers seront les premiers et comment les premiers seront les derniers. » Alors, je vous pose la question parce que, bon, je veux que ce soit un petit peu interactif, hein. Parce que je suis comme vous, hein, je lis la parole, je suis obligé de prier, je suis obligé de réfléchir et je n'ai pas toute la réponse. Ça, c'est clair. Hein. Alors, de quoi s'agit-il ? Et de qui s'agit-il ? Franchement, c'est simple, la réponse est simple. Bon, il s'agit d'une parabole du royaume. D'accord ? C'est-à-dire que c'est Jésus qui parle de son royaume. Ok ? Alors, qui embauche finalement ? Qui embauche ? Là, on voit dans la parabole que c'est un vigneron, mais en fait, il s'agit de Dieu. On parle de Dieu. Ça, c'est la comparaison. Je fais le raccourci. Hein. Il embauche. Comment s'y prend-il ? Comment s'y prend-il ? Comment ce vigneron ou comment l'éternel semble s'y prendre ? Ben, il sort. Il sort. C'est-à-dire, il prend l'initiative. Il va les chercher. Aidez-moi. Il va les chercher, il sort, il le dit. Et ça, c'est quand même tout à fait incroyable. Il prend l'initiative. Et dans toute la parole, on voit que Dieu souvent prend quelque part l'initiative. Il suscite même l'initiative dans son initiative. Bien. Il convient d'un denier. Il invite avec autorité. Vous avez retenu le ton qu'il emploie. Allez travailler dans ma vigne. C'est un ton à la fois affirmatif et autoritaire quand même. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce vignoble, c'est que l'Éternel persévère jusqu'à ce que tous les ouvriers soient suffisants et que la moisson soit remplie, soit faite. Donc visiblement, il ne s'arrête pas, lui. Comment s'y prend-il ? Ben, il sort de bonne heure, à 9h, à 12h, à 3h, et même le soir. C'est-à-dire qu'il est tout le temps présent. D'accord ? Deuxième réflexion que je me suis faite, qui est embauché ? Qui est embauché ? Ben, je ne vois pas de précision quant à l'origine des embauchés, ni leur confession, ni leur capacité, leur qualification, ni dans la compréhension, ni dans le rendement, ni dans le savoir-faire. Pas de qualification particulière. Mais il embauche quand même. Simplement, ce sont des ouvriers. Un peu comme vous et moi, quoi. Néanmoins, tous ont un point commun. Et le Seigneur nous connaît bien. C'est qu'il ne va pas embaucher quelqu'un sans fixer un prix, sans donner une rémunération. Chacun d'entre nous va d'accord pour travailler, les ouvriers sont d'accord pour travailler, mais pour une somme, pour une récompense. Ça, c'est un point commun. Le travail est accompli, certes. Le soir arrive. Le Seigneur et ce vignoble, je fais toujours le parallèle, se sert d'un gérant. Il y a une espèce de responsable qui a un rôle précis. Quel est son rôle ? C'est de rassembler les ouvriers et de leur donner la paix. Mais le maître précise quelque chose de très 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 particulier, qui est presque choquant. Ouais. La paix. C'est-à-dire la paix, l'argent. D'accord. Bien sûr que tu as compris. Et donc, il obéit à son maître, lui aussi. Il rassemble les ouvriers et le maître lui donne une consigne très 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 particulière. À partir du verset 8, « Fais venir les ouvriers, dit-il, donne-leur la paye. Tu commenceras par ceux qui ont été engagés les derniers pour finir par les premiers. » Alors, je ne sais pas comment vous recevez ce verset-là. Enfin, je ne sais pas. Y a-t-il quelque chose qui vous choque ou vous trouvez ça tout à fait normal ? Est-ce que c'est normal ? Est-ce que vous auriez procédé de cette façon, vous ? Si vous y étiez le propriétaire du vignoble ? Si vous deviez payer quelqu'un, comment auriez-vous fait ? Non, tu n'aurais pas fait comme ça. Comment tu aurais fait ? Tu aurais donné plus d'argent à ceux qui donnent plus ? Oui. 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 Bah, moi, j'ai pensé que... Bah non, mais attendez. Au départ, quand même, il y a un moment, on peut en parler tout de suite. Allez, il y a un contrat. Il y a un contrat. Il dit, je t'invite à travailler dans ma vigne. Un, il ne dit pas combien de temps tu peux travailler. Il ne dit pas ça. Va travailler dans ma vigne, tu seras bien payé, notamment une pièce d'argent. Le contrat était déjà établi. D'accord ? Ce qu'il aurait pu simplement faire, c'est faire venir alors, souvent, les premiers, leur donner l'argent, et ensuite faire venir les derniers pour pas que ça se sache, quoi, je veux dire, des discrets dans la rétribution. Non. Il fait venir tout le monde. Et puis, alors, les premiers voient que les derniers retouchent l'argent. Et je ne sais pas pourquoi il est. C'est provocateur. Enfin, moi, c'est le mot qui me vient à l'esprit, mais je dis, il nous provoque, là, Seigneur. C'est un provocateur dans l'âme. C'est un révolutionnaire dans l'âme, Jésus. Et tout le temps, il est comme ça. Tout le temps, il est comme ça. Il faut tout le temps qu'il nous choque. Il a toujours choqué nos mentalités, nos façons de voir les choses. Nos façons économiques de voir les choses, nos conceptions des choses. Alors, je ne dirais pas beaucoup plus que ça, parce qu'il y a beaucoup à dire. Donc, il confronte notre nature humaine. C'est le moins qu'on puisse dire. D'accord ? Alors, les ouvriers qui arrivent en premier, eh bien, à ce moment-là, c'est un déferlement charnel, si je peux dire. Ils argumentent. Et c'est une logique toute humaine qui tient la route. Nous avons travaillé toute la journée, sous la chaleur, sous la pression. Nous devrions toucher davantage. Alors, bah, le maître de moisson, il est confronté à des ouvriers un peu syndicalistes. Il est obligé, à ce moment-là, de reprendre le dessus, de prendre l'autorité par rapport à ça. Parce que pour l'instant, on dirait que le patron va être débordé. Là, hein. Il va avoir une émeute, ils vont casser la baraque, ils vont arracher ses pieds de vigne. Enfin, vous voyez un petit peu, on a des exemples aujourd'hui comme ça. Mais non, le maître est obligé de reprendre dès le départ. Il revient au début de son engagement et il rappelle le contrat. Il leur rappelle le contrat en disant bah, « j'ai convenu avec toi » et là, il reprend la personne peut-être la plus vindicative, peut-être. La plus contradictoire, la personne qui revendique le plus. Mon ami, je ne te fais pas le moindre tort. Point. La discussion s'arrête. Là. Il y a comme une espèce de couperet là. Je ne te fais pas le moindre tort. Une pièce d'argent. Bon. Alors je ne sais pas, on avait essayé, avec Jacques, on a essayé de trouver l'équivalent d'un denier, une pièce d'argent, mais à mon avis, c'était pas négligeable. Hein ? Donc, c'était quand même assez important. N'est-ce pas le salaire sur lequel nous étions d'accord, toi et moi ? Nous tous. Bon, il ne peut pas dire non, l'ouvrier. Il ne peut pas dire non. D'accord ? Prends donc ce qui te revient. Comment ? Ça, c'est pas une Thompson. Hein. Non, je n'ai pas Thompson, non. Non. Mais avant, j'avais une autre Bible, la Scottfield. On voyait les coefficients poids, mesure et... Oui. Je n'ai pas retrouvé mon ancienne Bible avec le déménagement. Elle doit être chez mes beaux-parents dans un panier, hélas. Mais on voit effectivement la correspondance, c'est quand même assez conséquent. Bon. Mais enfin, on s'imagine quand même qu'une pièce d'argent, on sent quand même que le salaire est quand même conséquent. Alors, il dit, bon, prends ce qui te revient et va chez toi. Et à ce moment-là, il dit quelque chose qui nous regarde plus particulièrement. Si cela me fait plaisir de donner au dernier autant qu'à toi, cela me regarde. Tout à l'heure, on a pris le vin et le pain. L'offrande de Christ sur la croix, c'est une décision souveraine de Dieu, de sa propre autorité. Amen. Ne puis-je pas disposer de mon argent comme je le veux ? Il pourrait dire, je pourrais disposer de ma puissance, de ma grâce, de mon amour, comme je veux. Et ça choque la nature humaine. Ou mon bien ? Alors, ou bien m'en veux-tu parce que je suis bon ? Est-ce que Dieu est bon ? Oui, Dieu est bon. C'est vrai. Donc la bonté de Dieu, la générosité de Dieu, la grâce nous gêne. Si on devait donner un titre à cette parabole, quel titre donnerions-nous ? Dans la parole vivante, il y a un titre très révélateur. Christine, tu peux nous donner ? Le scandale de la grâce. Ça ne vous scandalise pas, vous, la grâce ? Moi, ça m'a toujours scandalisé, la grâce. Quand j'ai commencé à penser à la grâce, je me suis dit, c'est quoi ça ? Ça vous scandalise pas, la grâce ? Ça m'a toujours scandalisé, la grâce. Et je crois que je n'ai pas tout à fait fini avec ça. Hein. Je n'ai pas fini avec ça. Je suis scandalisé par le don gratuit de Dieu. C'est scandaleux, je veux dire. C'est immérité, donc c'est scandaleux. Mais Dieu fait ça. Dieu est comme ça. Mais l'homme respecte. Il n'est pas content. Hein. Il ne comprend pas. À celui qui ne comprend pas, eh bien, il sera toujours en but avec ça. Il peut même devenir une pierre d'achoppement pour l'Église. Amen. Alors, oui. Leurs attentes? Oui, non, mais je comprends très bien, on en avait discuté, mais je suis d'accord avec toi. Et je pense que ce qui est bien, c'est que chacun, en soi, on puisse avoir ce type de pensée, quoi. C'est pour ça que la parole, dans un esprit d'interactif, nous fait rebondir par rapport à cela, et on interroge son propre cœur. Moi aussi, moi, je dirais que ce qui m'a frappé le plus, c'est la jalousie. Moi aussi, je serais jaloux. La jalousie, à mon avis, c'est le maître mot. Vous voyez, on est jaloux. Jaloux de l'autre. Et quand peut-être même dans l'Église, quelqu'un a plus de grâce parce qu'il reçoit plus du Seigneur, est-ce que parfois on n'est pas jaloux? Ben si, hein. Ben moi personnellement, j'étais jaloux, hein. Ben oui, j'ai dit, Seigneur, parfois j'ai été jaloux parce que quelqu'un a reçu plus que moi. Ben oui. Pourtant, est-ce que je bénéficie de la même grâce que lui ou qu'elle? Ah oui, mais je suis jaloux. Pas vous? Vous êtes bien, vous, hein. Vous êtes bien. Je vais venir moins souvent, alors je vais. Bon. Ben oui, je suis jaloux, d'accord? Donc, il dit, et pour finir, il dit quelque chose, il dit voilà comment les derniers seront les premiers, comment les premiers seront les derniers. Alors maintenant, comment peut-on vraiment, qu'est-ce que finalement cette parabole nous dit? Bon, à part la jalousie, on a tous bien compris qu'effectivement la grâce ait été méritée, ça on l'a bien compris. Mais si on pouvait résumer avec des mots simples, des mots à nous, les premiers et les derniers. Est-ce que les premiers et les derniers sont exclus du royaume? Ils restent que dans le royaume? Est-ce qu'un jour je suis dans les premiers, un jour je suis dans les derniers? Est-ce que je vais être le premier, je vais être dans les derniers quand je vais me présenter devant l'Éternel? Enfin, je vous pose la question. C'est sûr? Oui. Oui. Il y a d'autres réflexions, non? Oui. Oui. Donc ce texte nous parle de la profondeur de la grâce. La justice. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Oui. La bonté, ça nous parle aussi beaucoup de bonté de Dieu. La bonté, la générosité de Dieu. Mais aussi, les premiers et les derniers, c'est l'intensité de la joie des uns et des autres. Non? Si j'ai compris toute la grâce, si je suis vraiment complètement joyeux de la grâce, j'en profite pleinement. Et je suis, pour Jésus, vraiment, je deviens le premier, quoi, quelque part. Parce que je m'approche du cœur de Dieu. Je ne sais pas si j'arrive à être clair. L'intensité de ma joie, je rejoins la bonté de Dieu. Je profite vraiment de la grâce de Dieu. Sans calcul. Je me débarrasse. Je me débarrasse de tout ce qui fait de moi un calculateur. Mais c'est sûr que c'est pas un verset facile à expliquer. J'ai jamais entendu vraiment prêcher là-dessus complètement. Enfin, je sais pas, Josette peut-être a déjà entendu prêcher là-dessus. Parce que là, moi personnellement, quand je dis oula, pour moi, ça va être un peu dur parce que franchement, je trouve que chacun se regarde par rapport à ça. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit. À travers tout ce que nous avons dit, nous voyons quand même que Jésus est en train de nous parler, et en ce moment, c'est vrai que c'est bien, ça sera en septembre le ramassage des blés, mais quand Christine m'a demandé, effectivement, tu peux le faire, je me dis, mais Seigneur, mais quel rapport avec moi, quel rapport avec nous? Enfin, je comprends pas, c'est quoi ce verset? Elle me dit, oui, j'ai ça à cœur, est-ce que tu viens partager avec moi? Ben, je dis, attends, moi, j'ai rien reçu par rapport à ça, tu me demandes de faire ça, enfin, je vois pas. Et quand j'étais là, j'avais ressenti un petit peu cette nécessité maintenant de commencer à dire un peu oui au Seigneur, quoi, rentrer un peu dans sa moisson. Et j'avais vu des fruits, tout ça, je dis oui, là, Seigneur, là, de toute façon, il faudrait vraiment qu'il y ait un déclic. Et le Seigneur s'est servi d'une personne aussi douce, aussi timorée que Christine, pour venir me chercher. Alors qu'on a deux tempéraments complètement différents. Enfin, c'est facile à dire, oui. T'es pas toujours d'accord, si? Si. Ouais, douce. Ouais. Et je me suis dit, ben oui, ben écoute, oui, je vais le faire. Et quand j'ai réfléchi ensuite, je me suis dit, mais Seigneur, mais pourquoi ce verset? Et je pense qu'il y avait une invitation. J'ai vu une invitation de la part du Seigneur. D'abord pour moi, mais je me dis, il n'y a pas que pour moi. Le Seigneur est en train d'embaucher ou de réembaucher. Alors, ce verset, aujourd'hui, tombe à point nommé. La fin de l'année se termine, nouvelle année va commencer, on a les 40 jours pour l'essentiel, des pas de foi vont être faits, la moisson est grande, Dieu veut, il y avait la dame de Lyon qui a prophétisé le grand potentiel hein, de moissonneurs qu'il y avait ici, je pense que je peux traduire ça comme ça, il faut débloquer les ouvriers, il faut que chacun connaisse sa tâche. Hein, d'accord? Au départ, dans la parabole, les ouvriers ne sont pas qualifiés, mais c'est rien dit, allez, ensuite les choses se font. Je ne sais pas comment ils vont s'organiser, hein, en fonction de chacun, les capacités de chacun, l'appel de chacun, le travail va se faire. Bon. Alors moi, j'ai envie de dire oui au Seigneur. Je vais offrir mon propre oui. Ben oui. Que si tu as besoin de moi, Seigneur, ok, je suis disposé. Et cet appel s'adresse à chacun d'entre nous. Mais je vous laisse avec le Seigneur, apporter votre propre réponse. Amen. Merci. Oui, Seigneur, merci pour cette parabole, merci pour ce partage, Seigneur. Il y a tellement encore de richesses dans ce texte. Il y a un appel pour chacun d'entre nous. Il y a de la place dans ton vignoble. Ce n'est pas forcément la place qu'on va avoir, mais il y a de la place. Et les choses seront données en fonction des oui que nous t'accordons. Parce qu'avec toi, on fait un pas de foi, on a une réponse. On fait un pas de foi, on a une réponse. Parce que tu es un économe, Seigneur, astucieux. Hein? Tu sais comment gérer ton personnel. Tu sais qui donner qui à quoi, et ainsi de suite. Enfin, je veux dire, il y a toute une. Tu es très organisé, Seigneur Jésus. Je te remercie, Seigneur, maintenant de clarifier les appels de chacun, de bénir chacun en particulier. Merci, Seigneur, parce que tu es un esprit d'ordre, Seigneur. Et merci parce que ta moisson t'ira jusqu'au bout de ta moisson. Et tu réaliseras, Seigneur, tu engrangeras le blé dans ton grenier, comme tu l'as promis. Merci, Seigneur, pour ta persévérance. Merci, Seigneur, pour ta bonté, pour ta générosité, Seigneur Jésus. Et merci de nous bousculer, Seigneur, dans nos conceptions. Dans nos conceptions, Seigneur. Et tu peux faire en une seule journée, Seigneur, ce que tu aurais voulu faire, Seigneur, par nous, en plusieurs années. Merci, Seigneur. Amen. Amen.